Claude Askolovitch, bonjour.
Bonjour Nicolas.
La Catalogne à la une et au menu des journaux.
Oui, les journaux qui suivent la foule, et comme la foule, 350 000 personnes, selon la police de Barcelone, n'étaient pas pour l'indépendance d'hier, ils suivent le mouvement. Cette foule, elle est à la une du Figaro, de la Croix, de Libération, un magnifique tatoué brandit le drapeau espagnol, du Télégramme, de West France et de l'Indépendant. L'Indépendant qui titre sur la fierté espagnole. Mais au-delà de la fierté, il y a autre chose, et cela s'appelle, Nicolas, d'un joli nom, la tristesse. Et on comprend cela en lisant la presse. Dans nos journaux, on voit d'un côté les tenants de la grande histoire. Le premier ministre espagnol, Mariano Rajoy, que le Figaro soutient et dont il reproduit les propos martiaux accordés à El País. L'unité de l'Espagne n'est pas négociable. Un chef. Ou bien l'autre chef, le président catalan, Carles Puigdemont, que Libération décrit dans un portrait aigre-doux comme le tenant d'une forteresse identitaire, ayant nourri depuis sa jeunesse une détestation de l'Espagne jusqu'au soutien à un mouvement terroriste et qui se prend aujourd'hui pour le berger de son peuple. Un chef, un chef. Mais au-delà des chefs, on a plutôt envie d'entendre ce matin la voix triste d'écrivain interrogé par La Croix. Tristesse du romancier Sergi Pamiès qui oppose l'ineptie bureaucratique Rajoy au romantisme de la mobilisation. Puigdemont, les grands gagnants, dit-il, sont les fabricants de drapeaux. Triste également la romancière Laura Freixas. Vous ne voyez pas de drapeaux catalans dans les quartiers défavorisés de Barcelone, dit-elle, et elle ajoute, je n'ai pas vu beaucoup de drapeaux espagnols dans la banlieue de Madrid. Freixas vit écrit à Madrid, elle est née d'un père catalan et d'une maman de Castille et Léon, une métisse en somme, et c'est cela qu'on entend dans La Croix, le métissage, notamment celui de José Carlos Llop, c'est un écrivain de Palma de Mallorca qui dit ceci. Je suis d'un paysage où l'on parle, lit et écrit deux langues. C'est une richesse qui nous est donnée dès l'enfance. Sont inséparables en ce qui me concerne le castillan et le catalan de Majorque. Je n'entends rien au conflit linguistique et je refuse de renoncer à ma vie bilingue. Et il refuse, cet écrivain, que l'Espagne cesse d'exister. Mais l'Espagne qu'il défend, Llop, n'est pas l'Espagne splendide et autoritaire de Rajoy, mais une autre Espagne, faible, fragile et métisse. L'amour d'un pays parce qu'il est fragile, voilà une belle idée en autant de grande fierté.
Nostalgie à la une de l'humanité, Claude, pour un révolutionnaire mort il y a 50 ans.
Che Guevara, tombé au combat en Bolivie le 9 octobre 1967. Belle photo à la une de l'humanité, avec le regard distant, presque fragile décidément, de ce héros révolutionnaire. Che Guevara, tombé sous les balles d'un sergent bolivien à moitié ivre, dit le Figaro, qui est allé sur les traces du culte du Che là où il est mort. Tué, précise l'humanité, par les militaires boliviens et la CIA, l'humanité qui proclame la une, le présent est fait de lutte, l'avenir nous appartient, comme si Ernesto Bruno Le Maire se préparait à défiler contre votre budget. Mais le dossier de l'UMA vaut mieux qu'un tract, un long texte de l'historien universitaire journaliste Jean Ortiz qui inscrit Guevara dans une histoire accomplie, celle du communisme soviétique dont lui, Ernesto, aurait pu être l'antidote qui parlait si bien de morale et d'humain. On a le sentiment d'un monde enfoui dont nul ne sait que faire aujourd'hui. Peut-être se faire plaisir comme Sud-Ouest, où l'on lit ceci. Le Che avait élaboré, voyez-vous, sa stratégie révolutionnaire à partir de la stratégie du rugby. Parole de Jean Cormier, biographe de Che Guevara, mais aussi légende rugbystique, ami et dépositaire de l'héritage littéraire et bachique d'Antoine Blondin, un vieux gaillard du Sud-Ouest de 74 ans et d'1m90, encore prêt à mettre sa main dans la tronche, de qui douterait de la sainteté de Guevara. Et le papier de Sud-Ouest, théoriquement consacré à un révolutionnaire, est en réalité le portrait d'un étonnant journaliste français. Ça se lit aussi, ça nous inspire d'autres nostalgies.
Des débats économiques, Claude, dans les journaux.
Avec la Dépêche qui met en avant, à son tour, tous les journaux régionaux y passent les uns après les autres, qui met donc en avant la colère, Bruno Le Maire, des élus locaux contre vos projets. Le Parisien qui annonce une suite possible des réformes. Faut-il supprimer les allocations familiales aux ménages les plus aisés? On peut débattre. Quant aux Échos, ils réveillent le passé dans un numéro pourtant composé par des personnalités invitées, dont vous, Bruno Le Maire, qui s'intitule La Relève. Eh bien, La Relève consacre deux pages aux 20 ans des 35 heures, mais pour nous dire heureusement qu'avec l'assouplissement généralisé, la possibilité de contourner la règle, eh bien, c'est une vieille histoire enfouie.
8h36, le drame des Harkis dans Nice ce matin.
Oui, ces Algériens qui avaient choisi la France, c'est une circonstance locale. L'agglomération niçoise va réserver des emplois aux enfants de Harkis, mais c'est une longue douleur qui est écrite par le quotidien de Nice, avec ce témoignage d'un homme, Mohamed Messaoud. J'avais 6 ans, la France nous a mis dans des camps. Il décrit ceci, on a débarqué à Marseille le 21 juin 1962, ils nous ont parqués dans un camp bourlastique dans le Puy-de-Dôme. C'était des tentes militaires. Les harkis qui arrivaient en premier montaient celles des survivants. On était 4 ou 5 familles par tente. Nous, les gosses, on jouait. Nos parents se taisaient. Ces parents d'Imé Saoud qui sont morts avec le sentiment d'avoir été les chiens de la France. On fait silence, Nicolas, devant ce qui ne pourra plus jamais être rattrapé. Et en même temps, lisant le journal, on se rend compte qu'il y a des événements microscopiques, mais qui sont comme en écho de cette histoire. Il y a ce matin, dans Midi Libre, ce cri d'un prêtre de l'Hérault. Il s'appelle le père Catala. « Veut-on faire complètement partir les chrétiens de la paillade ?» La paillade, c'est un quartier populaire de Montpellier où une église, l'église Saint-Paul, est régulièrement dégradée. Des bêtises d'adolescents, lit-on, mais tout de même, nous avons besoin, dit le curé, à la communauté musulmane, de votre soutien et de votre amitié. On voit ce que l'on pourrait faire en fonction des convictions de chacun de cette petite histoire que l'on ne va pas prendre au drame. Il faut lire tout l'article de Midi Libre. Une invitation dans les mosquées a été lancée au respect des édifices religieux et samedi prochain, tout le monde va nettoyer les abords de l'église et réparer la fenêtre du presbytère. C'est ainsi que nous nous sauverons fragilement dans des petits gestes.